Et salut à toi les internets, nous sommes le 12 décembre 2022 et voici l'actualité tech et mobile de ces derniers jours. Tu constateras que j'ai pris un peu de recul, mais j'en avais un peu marre, j'avoue, d'une série d'annonces sans vraiment grande saveur, on va dire ça comme ça, qui tenait vraiment essentiellement et beaucoup de la communication publicitaire autour de Twitter. Pourtant, puisque Elon Musk continue de prendre la une, on va dire ça comme ça aussi, eh bien, il faut que j'en parle. Et le mot à la mode et le mot du jour est Shadowban. Mais on va commencer par un article de Business Insider qui annonce, et moi avec du coup, que Twitter a décidé de changer la modalité d'affichage des tweets pour ses utilisateurs. Aujourd'hui, on le sait, on a un compte de like et un compte de retweet. Elon Musk a tweeté que Twitter allait bientôt introduire une nouvelle fonctionnalité qui permet de voir le nombre de vues réelles sur les tweets, dans une volonté de valoriser sa plateforme, je pense, pour les annonceurs, puisque c'est une fonctionnalité que les gens qui utilisent les réseaux sociaux, et notamment Twitter, connaissent bien, puisque toute une série d'analytics permettent d'aller voir le reach, justement, de compte Twitter. L'ancien PDG Jack Dorsey, et on le voit à l'écran pour les gens qui le suivent en vidéo, dit qu'il s'agit effectivement d'une meilleure métrique et qu'il soutient cette méthode. Néanmoins, ce n'est pas la seule nouvelle de ces derniers jours, puisque Elon Musk a aussi dit vouloir améliorer la transparence autour de ce qu'on appelle le shadow banning sur le site, c'est-à-dire que le tweetos pourra désormais identifier de manière très précise pour quelle raison sa publication a été éventuellement dépréciée par le site, une précision qui, pour Elon Musk, se situe dans la lignée des divulgations de ce qu'il appelle les Twitter Files, et notamment le siècle digital en parle en français. Les Twitter Files, qu'est-ce que c'est? C'est toute une série de captures d'écran, de divulgation d'emails internes, censées démontrer que la totale liberté de parole prônée par le PDG Elon Musk n'était pas en vigueur à l'époque de l'ancienne direction, et que cette liberté de parole doit s'accompagner d'une liberté de savoir si la liberté de parole est accompagnée d'une liberté d'atteindre les gens à qui on s'adresse. Ce qui, selon lui, n'était pas le cas. Il entend donc se démarquer des pratiques anciennes qu'il révèle par la divulgation de ses emails, démontrant, selon lui, que Twitter possédait plusieurs listes noires et secrètes pour limiter certains comptes qu'il jugeait comme dangereux. Alors il essaie de monter un peu l'affaire en épingle. Les profils dangereux se voyaient invisibilisés, ils pouvaient donc poster, mais leur reach était réduit. C'est ce que lui démontre par le fait qu'il y avait donc des trends blacklist et des search blacklist, c'est-à-dire que si moi je poste un tweet et qu'il est blacklisté, eh bien il n'avait aucune possibilité d'apparaître dans les tendances ou d'apparaître dans les résultats de recherche pour ne pas lui donner plus de visibilité. Loin de tout ce que lui appelle, c'est une entrave obscure à la liberté de la parole, et c'est ce qu'il essaye évidemment de démontrer. Mais bon, s'il le dit, néanmoins, quand on va voir notamment un article de TechCrunch qui fait bien le tour de la question, quand on va creuser les TweetLeaks, je vais les appeler comme ça, tiens, les TweetLeaks, on constate que la question principale, c'est de savoir si vraiment, en tant qu'utilisateur conscient de la plateforme Twitter, on a envie de voir un tweet d'un président qui appellerait à la prise d'un lieu de pouvoir, par exemple par par une insurrection ou par des manifestants, remonter dans les tendances proposées à d'autres utilisateurs, ou dès qu'on fait une recherche, que ça remonte parmi les premiers tweets. Je me pose la question, et je pense que toi aussi tu dois te poser la question. Les chaînes d'email, les conversations sur Slack, les captures d'écran qu'il a publiées la semaine dernière, Elon Musk, dans lesquelles il dit qu'il révèle des pratiques obscures du réseau social avant qu'il ne le libère, donne en fait surtout à voir un aperçu de la nécessité de ce processus de réflexion sur le reach d'un compte, et que de fait on constate que les directeurs en place à l'époque avaient des discussions assez animées et assez étayées, argumentées à plusieurs sur des questions de gestion, on va dire en bon père de famille, de la modération quand elle arrive aux confins entre la légalité et le risque pour la population générale ou pour la loi, parce que tous ces éléments-là sont vraiment difficilement réglables par des algorithmes. Et ce qu'on voit donc dans les Twitter Files, c'est un peu cette matière première de réflexion qui implique la responsabilité individuelle du directeur du réseau social et le monde et la loi. Et de fait, moi j'ai pas repéré de complot illuminati dans ce que j'ai pu lire. Et c'est pas aussi clair qu'on aurait pu se l'attendre. Néanmoins, je pense que l'effet va être atteint et que il y aura assez peu de gens qui vont aller lire ce qui est vraiment dans ces Twitter files, et on va pouvoir retrouver des gens qui vont se sentir avoir été bannis et qui vont monter ça en épingle, et ça va donc faire le jeu inverse, et on peut s'inquiéter, je pense, de la dérive réactionnaire de Twitter actuellement, en tout cas de sa direction, sous le couvert d'une liberté d'expression totale et complète. Voilà. Dans la série des autres actualités de Twitter cette semaine, on a l'impression qu'il n'y a que ça, mais c'est pas tout à fait faux. Hein. La presse tech et mobile est très tournée sur ce qui se passe chez Twitter, et c'est vrai que Elon Musk entretient cette communication en continu. C'est l'annonce du retour aujourd'hui, ce lundi, de Twitter Blue. Alors, Twitter Blue, on le sait, c'est le service payant de Twitter qui avait été retiré des options parce que les gens s'en donnaient à cœur joie, et en usurpant l'identité des gens, ils l'avaient retiré, ils avaient annoncé que le système payant reviendrait. C'est le cas aujourd'hui, ce 12 décembre, Twitter Blue revient et offrira aux abonnés la coche bleue. Alors, la coche bleue, on verra, c'est... ça devient un peu plus complexe que ça, avec une sorte de processus de vérification destiné à empêcher les usurpations d'identité sur le site Twitter. On ne sait pas encore exactement en quoi consiste l'examen du compte pour vérifier qu'il n'y a pas d'usurpation, mais on sait déjà qu'il y aura vérification du numéro de téléphone dans le processus. Le ticket d'entrée reste à 8$ comme annoncé, 11$ si vous êtes via l'App Store, puisqu'on sait que Elon Musk a voulu faire absorber par Apple les pourcentages de paiement de l'App Store. Quoi d'autre dans les annonces de Elon Musk sur Twitter Blue? La possibilité d'écrire des tweets plus longs, apparemment jusqu'à 4000 caractères. On verra sans doute demain comment ça se présente. Voir aussi de corriger ses tweets, c'était une fonctionnalité qui était depuis longtemps attendue, mais par tous les utilisateurs de Twitter et pas que les utilisateurs payants. La possibilité aussi de voir moins de publicité si on paye, ainsi qu'un accès au système de coche. Alors il y avait trois couleurs qu'il avait énoncées, une couleur pour les entreprises, une couleur pour les utilisateurs personnels et une couleur pour les organismes officiels ou d'État. Et donc voilà, ça c'est l'annonce finalement du jour en termes de produits, c'est celle du retour de Twitter Blue. Les informations sur la règle concernant le shadow banning obligent, et ça c'est peut-être le seul avantage de cette mise en lumière par Elon Musk, oblige les autres géants à se positionner. Et après les annonces autour de Twitter Blue, on constate aussi que Instagram a été obligé de communiquer sur ses pratiques en matière de shadow banning, et Instagram, par la parole de Adam Mosseri qu'on voit ici à l'écran dans un article de Big Geek, a annoncé que Instagram aussi allait indiquer aux créateurs quand et pourquoi leurs publications sont shadow bannées. Instagram va permettre aux comptes dits professionnels de savoir si leurs publications sont bloquées ou non par les algorithmes de recommandation. Cette information apparaîtra dans la partie statut du compte de l'app Instagram de ses utilisateurs et montrera une sélection de posts qui ne conviennent pas aux règles de Instagram, offrant la possibilité de modifier ces posts, de les supprimer ou même de les contester si la décision, il l'estime, est une erreur. C'est peut-être finalement le seul avantage du ramdam actuel mené par Musk autour de ces Twitter files là et du shadow banning, c'est qu'elle oblige les géants à se positionner sur la question. Et on termine avec une information plus légère mais pas forcément plus joyeuse. C'est Journal du Geek qui nous apprend que Facebook devient de plus en plus un grand mausolée et qu'elle doit composer avec ses pratiques. En effet, quand on cumule 3 milliards d'êtres humains présents chaque jour sur une plateforme, qu'on affiche presque 20 ans d'existence comme Facebook, il semble évident qu'un certain nombre de profils sont en cessation d'activité, de gens sont décédés. Le Journal du Geek revient sur les pratiques de Facebook liées à la gestion des décès, mais aussi annonce des chiffres un peu plus... hallucinant mais néanmoins réel, c'est que il y a 2 ans, il y avait déjà un peu plus de 30 millions de profils de personnes décédées qui continuaient d'exister sur Facebook, et selon une étude de l'université d'Oxford, le nombre d'utilisateurs décédés surpassera celui des utilisateurs vivants sur le réseau social à l'horizon 2070, et en 2100, il devrait y avoir environ 1,4 milliard d'utilisateurs décédés sur Facebook. De quoi imaginer des sujets de scénarios à la Black Mirror. Oh wait, c'est déjà un sujet d'un épisode de Black Mirror qui s'appelait Be Right Back, dans lequel je vais pas spoiler tout, mais dans lequel l'utilisatrice est confrontée au décès de son compagnon et essaye de de jongler avec, sa tristesse en allant chercher un service qui récupère les posts sur les réseaux sociaux et on refait un indicateur de vie. Je vous laisse aller découvrir l'épisode si cela vous intéresse et il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne soirée. Porte-toi bien, je dis vous, je dis je, je dis tu, aujourd'hui c'est un peu le bazar. Porte-toi bien, les internets, reviens souvent sur notre site si tu as aimé un peu de ce que j'ai dit aujourd'hui. Abonne-toi à notre fil Twitter si tu ne veux rien rater des actus globales que je poste sur écran mobile FR, 2100 liens ou 2300 liens. Scruté chaque jour, tu comprends bien compte que la revue quotidienne n'en est qu'un maigre exemple. Si tu n'aimes pas Twitter et si tu as envie de me faire plaisir, tu peux aussi aller voir sur notre fil Mastodon, écran mobile FR. Tu retrouves nos vidéos de cette revue de presse sur la chaîne YouTube d'écran mobile ou bien le son de la vidéo YouTube que tu es en train de regarder sur ta plateforme de podcast préférée. J'ai appelé le podcast L'effarouchement des étourneaux, comme ça je suis le seul à être sur ce créneau-là et écran mobile aussi. Du coup, tu seras le seul à retrouver notre plateforme de contenu audio. Et tu seras sûr que c'est nous. En tout cas, si jamais l'idée te traverse de soutenir cette initiative tout en discutant des actualités du jour ou en venant en donner de nouvelles, si tu es une marque et que tu as envie d'aller expliquer un nouveau projet, un nouveau produit lié au mobile et à la communauté française, n'hésite pas à venir te présenter et expliquer ton projet, ton produit, ça m'intéresse aussi évidemment. Le but de cette communauté est de discuter des actualités et des produits pour être de meilleurs chefs de produit, de meilleurs responsables marketing, de meilleurs professionnels globalement. C'est une plateforme Discord que tu peux rejoindre en cliquant sur un des liens que tu trouveras dans la description. Bref, tu fais comme d'hab, tu lâches des pouces, tu envoies des likes et du love partout où c'est légal de le faire. Je m'excuse pour ma fatigue du jour. Porte-toi bien les internets, c'était Denis Verloès pour Écran Mobile.